Radio Prague, les informations.
Selon une enquête, le régime actuel en Tchéquie n'assure pas l'égalité des chances pour tous. Pacte budgétaire européen, l'ODS demande la tenue d'un référendum. Le ministre de l'Éducation souhaite réformer les modes de financement des établissements scolaires. 80% des Tchèques estiment que le régime actuel ne garantit pas les chances égales pour tous les habitants. Tel est le résultat d'une enquête réalisée par l'agence STEM. Selon la même source, 2/3 de la population tchèque estime que les hommes politiques monopolisent le pouvoir et l'homme ordinaire n'arrive pas à imposer ses opinions. C'est le résultat le plus sceptique à partir de 1997, lorsque l'agence STEM a posé pour la première fois cette question dans le cadre d'un sondage public. La signature du pacte budgétaire de l'Union européenne déplacera les compétences budgétaires de la République tchèque vers le niveau communautaire. C'est du moins ce qu'a déclaré à la télévision tchèque Vojtěch Belling, le secrétaire d'État aux affaires européennes. Il a toutefois précisé qu'il était difficile de savoir à l'heure actuelle quels seront les domaines de l'autorité fiscale tchèque qui seront transférés de Prague vers les institutions de l'Union européenne, notamment en raison du fait que la conclusion d'un pacte fiscal aboutira sur la création de nouvelles institutions européennes dont le contour et les compétences ne sont pas encore clairement établis. La vice-premier ministre Karolina Pík, partie Affaires publiques, rassemble les matériaux nécessaires à la demande de prolongation de la prescription au-delà de 20 ans des crimes de corruption soupçonnés dans certaines des privatisations réalisées durant les années 1990. Dans un entretien accordé à la télévision tchèque, ČT24, elle a assuré que cette prolongation devrait permettre d'éviter que de nombreuses affaires de corruption du passé échappent à des enquêtes judiciaires. Depuis l'entrée en vigueur le 17 novembre dernier de la loi sur la reconnaissance du statut d'ancien combattant contre le communisme, plus de 2400 demandes ont été déposées au ministère de la Défense. Pour le moment, aucune vérification ni refus des demandes n'ont été effectuées. Selon le ministre de l'Éducation, Joseph Dobesch, le financement des écoles primaires et secondaires ne devrait plus se faire au niveau régional, selon le nombre d'élèves, mais selon le taux de remplissage des classes. Selon le ministère, ce plan devrait conduire à l'unification d'écoles aux effectifs réduits et contribuer à des économies de plusieurs milliards de couronnes. Près d'une cinquantaine de personnes s'est rendue samedi 14 janvier sur la tombe de Jan Palach dans le cimetière d'Olchany à Prague afin de commémorer le 43e anniversaire de son immolation par le feu en 1969. Un acte commémoratif a également eu lieu à Vsetatu devant la maison où est né le jeune homme. Par son geste tragique, Jan Palach a souhaité signifier son opposition à la mise en place de la normalisation tchécoslovaque engendrée par l'entrée dans le pays des troupes des armées du pacte de Varsovie en août 1968. Un musée virtuel dédié à Jan Palach et aux conséquences de son acte a également vu le jour ce lundi 16 janvier. Météo. Ce lundi 16 janvier, c'est le jour de la fête des Tstirat. Le temps est nuageux, à couvert en République tchèque, il neige par endroits. Les températures maximales se situent entre moins 3 et 1 degré. Mardi, le ciel en Tchéquie sera toujours couvert, il neigera par endroits. Les températures maximales s'échelonneront de moins 1 à 3 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter. Et nous cédons le micro maintenant à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Václav Richter pour son bulletin d'information. Bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée aux événements qui font l'actualité tchèque. Ce lundi, 43 ans se sont écoulés depuis l'immolation de Jan Palach en protestation contre l'occupation soviétique de la Tchécoslovaquie. Nous évoquerons plusieurs projets qui visent à entretenir la mémoire de son geste. Et puis, gros coup pour le cinéma tchèque, le film d'animation Filmfalum sort dans les salles françaises avec une distribution relativement importante. Si la fiction a du mal à percer, l'animation, elle, a toujours ses lettres de noblesse au pays des Frères Lumière. Bonne écoute de ce programme. « En de nombreux endroits du pays, les Tchèques commémorent ce lundi la mémoire du jeune étudiant Jan Palach qui s'est immolé par le feu le 16 janvier 1969. Un geste de protestation contre l'occupation soviétique en Tchécoslovaquie visant aussi à pousser la société tchèque à réagir contre la présence militaire et l'apathie qui gagnait le pays. Paul Bauer.
Âgé de 21 ans, l'étudiant en histoire Jan Palach s'est immolé par le feu il y a 43 ans, jour pour jour, et est décédé de ses brûlures 3 jours plus tard. Le 25 janvier 1969, son enterrement avait été l'occasion d'une manifestation nationale en faveur de la liberté et de la démocratie. Sa tombe au cimetière d'Olchany à Prague est alors très vite devenue un lieu de recueillement. Pour éviter d'éventuelles commémorations, les autorités ont décidé d'exhumer en 1974, les restes de sa dépouille, de les réduire en cendres et de les transférer dans le caveau familial à Vchetati, au nord de Prague. C'est à la faveur du changement de régime en 1989 que l'urne de Jan Palach a retrouvé sa place dans le cimetière pragois. Ces éléments indiquent à quel point le geste tragique de l'étudiant revêt une importance symbolique pour la mémoire de la nation tchèque et slovaque et leur lutte pour la liberté. Le directeur du musée national, Michal Lukeš, rappelle le sens historique à donner à son sacrifice.
Le geste de Jan Palach n'était pas seulement un acte de protestation contre l'occupation soviétique, mais une tentative pour réveiller les nations tchèques et slovaques et les sortir de leur léthargie. Mais c'était évidemment un acte de protestation contre le pouvoir totalitaire qui, à la suite de la détente des années 1960, a considérablement renforcé sa pression sur la société et écrasé les libertés humaines.
La question de la transmission mémorielle est l'un des aspects clés de la figure héroïque de Jan Palach, notamment en raison du fait que, durant la normalisation des années 1970 et 1980, les autorités communistes ont tenté d'évacuer des souvenirs collectifs l'acte de l'étudiant. C'est ce qu'explique le directeur du musée national, qui est né en 1975 et qui n'a donc découvert l'histoire de Jan Palach qu'à la fin des années 1980.
Jan Palach était un grand tabou dans la société. Personne n'en parlait et ça ne devait pas s'enseigner à l'école. Ma famille ne m'en a pas parlé quand j'étais jeune. Mes parents craignaient que j'en parle à mon tour à quelqu'un de l'école, car ils auraient pu avoir de sérieux problèmes. Je n'avais que 13 ans lorsque j'ai appris cette histoire et j'ai été très choqué. Je souhaitais comprendre pourquoi ils l'avaient fait.
La nécessité d'en parler et de conserver le souvenir de l'acte héroïque de Jan Palach et de son symbole contre le totalitarisme est à l'origine d'un site internet créé par le Conseil des étudiants de la Faculté des Lettres de l'Université Charles. L'exposition numérique est disponible à partir d'aujourd'hui à l'adresse suivante www.janpalach.cz. On y trouve de nombreux documents iconographiques sur le jeune homme, des enregistrements audiovisuels montrant les réactions prononcées à la suite de son décès, ainsi qu'une présentation de l'ensemble des lieux qui ont façonné la mémoire de Jan Palach. Une seconde exposition est en cours de préparation à Vchetati, près de Mielnik, dans la maison qu'il a vu naître. Une association a été créée dans le but de rassembler les différents documents qui seront exposés dans le futur musée. Les visiteurs pourront ainsi visiter une reconstitution de la chambre de l'étudiant et visionner dans les autres pièces de la maison des documents audiovisuels présentant l'atmosphère d'apathie et de peur qui caractérisait la fin des années 1960 et le début de la normalisation.
Le film d'animation Film Farum 3 est sorti en salle en France, accompagné par une exposition itinérante. Film Farum est distribué dans l'Hexagone sous le titre Le jardinier qui voulait être roi. Pour parler de cette sortie, Michal Prochaska, critique de cinéma, est une des personnes qui a participé à cette sortie exceptionnelle dans les salles françaises. On l'écoute.
C'est le troisième film qui était fait, qui a adapté en fait un livre très très connu en République tchèque qui s'appelle Film Farum et qui était écrit d'un monstre sacré de la culture tchèque du XXe siècle, Jan Verich. Jan Verich était à la fois un acteur, un écrivain, un homme du théâtre, un homme de l'avant-garde, d'avant-guerre et aussi quelqu'un qui a incarné une sorte de la voix, de la culture pour le public général. Il a commenté aussi du coup les événements politiques, par exemple, des années 60. Dans cette époque-là aussi, il s'est décidé d'écrire un livre destiné aux enfants. C'était ça, Filmfarum, un livre de contes faits pour à la fois des enfants, mais aussi pour des adultes.
Alors, il faut préciser que ce film, Le jardinier qui voulait être roi, sort en France. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce qu'on peut un petit peu dire comment est ce film, en fait? Ces différentes petites histoires qui sont racontées par Yann Verré.
Oui, le bouquin se sert de presque 20 histoires, 20 contes faits. Le film raconte deux histoires. Le jardinier qui voulait être roi raconte deux histoires de ce livre. Il s'agit d'une adaptation d'une petite histoire et d'une histoire un peu longue. Le film était réalisé en animation de marionnettes tchèques pour des projections soit de 2D et même de relief. Pendant le festival Anifest qui était tenu en mois d'avril, il y avait une délégation des producteurs, des cinéastes, des professionnels français. Le festival a organisé un tour des studios de Prague et ils ont pu voir un extrait de ce film. Et un producteur qui s'appelle Christian Foll de la boîte de production Lardoux, il aimait beaucoup ce film. Il a contacté une boîte de distribution française qui s'appelle Cinéma Public Film pour justement essayer d'offrir ce film à eux.
Pour accompagner ce film, il y a aussi une exposition qui se déroule à Paris à partir du 16 janvier. De quoi s'agit-il exactement?
Le Cinéma Public Film est une société, est une boîte de production, un distributeur un peu spécial. Donc son travail est très très différent du travail de beaucoup de productions à grande échelle. Il se concentre pas tellement sur le premier week-end, par exemple de la sortie, mais il essaie de travailler avec le public de jeunes, des écoles, des étudiants, à travers toute l'année. Ça veut dire que, avec la projection du film, il sort une exposition qui accompagne la présentation et la projection du film. Avec le distributeur tchèque de Maur Film, Martin Vandas, ils ont construit 5 caisses avec des scènes du film qui vont circuler autour de la France. C'est une exposition de marionnettes. L'ouverture de cette exposition aura tenu au Centre tchèque à Paris 16 janvier, mais à partir février 4, l'exposition va débarquer pour le voyage autour de la France. De même façon, Cinéma Public Film prévoit des programmes spéciaux avec des enfants, des présentations de techniques de marionnettes du cinéma d'animation. Il faut dire qu'il s'agit d'une distribution d'un film tchèque au niveau de la présence du cinéma tchèque en France, très très marquant, parce que le Cinéma Public Film compte sur la distribution de 50 ou 60 copies. Ça veut dire que je ne me souviens plus quand un film tchèque était diffusé de même façon, à même taille, hein, en France.
Voilà, c'est avec le critique de cinéma Michal Prokhaska que s'achève la première partie de cette émission. On passe tout de suite à la suite. Et avec Philippe Icha, meilleur joueur du monde 2010 dans ses rangs, et un groupe au complet dans lequel figurent 3 joueurs évoluant dans des clubs du championnat de France, l'équipe de République tchèque de handball a entamé le championnat d'Europe en Serbie avec beaucoup d'ambition. Et dès son premier match de poule dimanche, la Reprezentace, en battant l'Allemagne 27-24, a démontré qu'il faudrait bien compter sur elle. Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
À la fois championne olympique du monde et d'Europe en titre, l'équipe de France, qui cherchera à décrocher un 5e titre international en 5 ans, fait une nouvelle fois figure de grand favori de l'Euro qui se tient cette année en Serbie. Malgré leur statut de triple champion, unique dans l'histoire du handball masculin, les Bleus n'ont pourtant encore rien d'acquis. De nombreux pays, là de devoir se consoler des places d'honneur, entendent bien faire chuter la France de son piédestal. Et huitième du dernier championnat d'Europe en 2009 et en phase ascendante depuis, la République tchèque fait partie de ces équipes aux dents longues, assoiffées de succès. Sa probante victoire obtenue avec 3 buts d'écart dimanche à Niš, dans le sud de la Serbie contre l'Allemagne, une des nations traditionnellement fortes du handball international, a été la première confirmation que la République tchèque pouvait effectivement espérer mieux que sa 8e place finale en Autriche il y a 2 ans. L'entraîneur slovaque de la Reprezentace, Martin Liptak, en est le premier conscient, même si avant le début du tournoi, Martin Liptak est resté très prudent dans ses déclarations. On l'écoute.
Tout le monde sait que le championnat d'Europe est le tournoi le plus difficile en handball. Cette année, ce sera peut-être un peu moins compliqué au niveau de la récupération, car nous disposerons d'un jour de repos après chaque match disputé. Pour nous, la question est de savoir si tous nos joueurs sont au même niveau que les Allemands ou les Suédois, les 2 équipes favorites de notre poule. Mais mon opinion est que nous disposons d'un très bon groupe de joueurs. L'équipe est bien équilibrée et personne n'est là juste pour faire le compte.
Lors du dernier Euro, la République tchèque avait notamment fait match nul avec l'Allemagne et ne s'était inclinée que d'un petit but contre la France, sacrée donc quelques jours plus tard. À l'époque, les performances de l'équipe nationale n'étaient pas passées inaperçues au pays, comme s'en souvient le meilleur joueur tchèque actuel, Filip Hicha.
Nous espérons que nos performances soulèveront une nouvelle vague d'intérêt et d'enthousiasme pour le handball en République tchèque, comme cela avait déjà été le cas il y a 2 ans lors de l'Euro en Autriche. Comme toujours, nous, joueurs, serons très solidaires sur le terrain et en dehors. Et nous voulons que nos supporters présents dans la salle et les autres spectateurs tchèques qui suivent nos matchs devant leur poste de télévision ressentent cette force collective. Maintenant, savoir si cet éventuel enthousiasme du public naîtra dès nos matchs de poule ou plus loin dans la compétition, par exemple à partir des demi-finales, je n'en sais rien, ce sera la surprise.
Surprise. Avant leur premier match contre l'Allemagne, nombre de Tchèques n'avaient que ce mot à la bouche. Créer la surprise ou être l'équipe surprise du championnat, comme le reconnaît l'ailier Daniel Kubeš, un des 9 joueurs du groupe tchèque à évoluer dans le championnat allemand.
Notre objectif est de jouer au maximum de nos possibilités. Si tel est le cas dans une compétition aussi relevée que le championnat d'Europe, je pense que nous sommes capables de battre n'importe quelle équipe. Si nous y parvenons, nous pouvons vraiment espérer créer la surprise ici cette année.
Když se nám to podaří, tak si myslím, že můžeme i ty naše soupeře na mistrovství překvapit.
L'entraîneur Martin Liptak est toutefois bien conscient que les choses seront probablement plus compliquées qu'il y a 2 ans lors du dernier Euro où personne n'attendait vraiment les Tchèques. À l'époque, à l'exception d'un match raté contre l'Espagne, les joueurs de Martin Liptak avaient fait jeu égal avec toutes les équipes qu'ils avaient affrontées, y compris celles considérées comme leur étant supérieures. Même s'il sait mieux que quiconque de quoi ses protégés sont capables, surtout lorsqu'ils sont euphoriques, Martin Liptak estime que leurs adversaires seront aussi mieux préparés à affronter la République tchèque cette année. Il explique pourquoi.
Je sais une chose. En Autriche, tout le monde nous considérait comme un simple participant au championnat d'Europe. Aujourd'hui, le regard des autres a changé. Ils savent de quoi est capable la République tchèque. Ils savent que nous sommes une équipe costaude. Nous avons bien joué lors du dernier Euro. Alors aucun adversaire ne nous traitera par-dessus la jambe. Tous vont se méfier. Ils sont avertis. C'est pourquoi je pense que notre tâche sera d'autant plus difficile.
Malgré sa mise en garde, l'entraîneur slovaque entend bien améliorer la 8e place finale du dernier championnat d'Europe. Pour cela, Martin Liptak peut compter sur un groupe de joueurs au complet, un groupe dans lequel les trentenaires expérimentés sont légion, et surtout sur son leader, l'irremplaçable Filip Hicha. Élu meilleur joueur du monde de l'année 2010 à l'issue d'une enquête organisée par la Fédération internationale de handball, l'arrière-gauche de 29 ans, 2 mètres et 130 kilos, connaît la recette pour réussir au plus haut niveau.
podat výkon na naší hranici, abychom vůbec mohli být.
Nous devons de nouveau être au top de nos possibilités. L'essentiel est que nous soyons satisfaits de notre niveau de performance, que nous n'ayons pas de regrets après un match ou à la fin du tournoi. Je ne sais pas si cela suffira pour faire mieux en termes de résultats que la dernière fois, mais j'en suis convaincu. Il ne faut pas avoir peur de perdre ou nous dire que nous ne pouvons rentrer à la maison plutôt qu'espérer. Ce que nous voulons, c'est jouer, bien jouer, gagner et profiter au maximum de ce championnat d'Europe.
Et au-delà des qualités individuelles de chacun des joueurs, Philippe Icha estime que les chances de succès de la République tchèque reposent d'abord sur le collectif et l'état d'esprit du groupe.
La solidarité est notre arme principale. Ce n'est un secret pour personne que les joueurs de cette équipe sont heureux d'être ensemble. Ils apprécient énormément venir en équipe nationale pour retrouver leurs copains et une ambiance formidable. Cette solidarité est essentielle pour nous. Grâce à elle, c'est ensuite plus simple de se battre sur le terrain et de faire des efforts pour ses partenaires. C'est souvent cette solidarité qui, dans les moments décisifs d'un match, permet de gagner un ballon ou un duel important.
Outre le championnat d'Europe, grand rendez-vous handball de ce début d'année, les Tchèques peuvent également espérer voir un peu plus loin. Une place qualificative pour les Jeux Olympiques de Londres sera en effet attribuée au vainqueur de l'Euro ou au finaliste si c'est la France tenante du titre qui remporte le tournoi. Mais il ne s'agit là pour l'heure encore que d'un rêve secret, du moins si l'on en croit l'entraîneur Martin Liptak.
Notre objectif pour l'instant, c'est d'abord le championnat d'Europe. Nous ne parlons pas des Jeux Olympiques entre nous. Bien sûr que les Jeux sont dans un coin de nos têtes à tous, mais y penser, en discuter ou nous les fixer comme objectif ne serait pas une bonne chose. Je pense qu'avec 7 euros, nous avons déjà suffisamment la pression sur les épaules comme ça.
Et de pression sur les épaules, il sera de nouveau question dès mardi avec le deuxième match de poule contre la Suède. Un match qui constituera un nouveau test sérieux des réelles ambitions tchèques contre une équipe quatrième du dernier championnat du monde. Ensuite, la République tchèque affrontera encore l'imprévisible Macédoine jeudi pour son troisième et dernier match de groupe.
C'est la fin des émissions en français de Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, le www.radio.cz/fr. Et ceci sous forme de podcast, sous forme d'articles ou également en streaming. Merci de votre fidélité. Bon vent, ahoy!